C'est joli une main verte, Alain Baraton.
C'est très joli.
Ça vous va comme un gant.
Oh, c'est très gentil. Bonjour Yves, bonjour Patricia, bonjour Alain. À tous.
Ce matin, Alain, ce n'est pas un, mais trois sujets que vous nous proposez.
Eh oui, j'avais envie de vous parler de plein de choses. J'avais donc trois coups de cœur. Et le premier pour une exposition sur les chemins du paradis aux franciscaines à Deauville. Alors, j'ai découvert cet endroit la semaine dernière, les franciscaines, et je suis tombé admiratif. Les franciscaines, c'est un bâtiment occupé depuis 1870 par des sœurs. Elles sont parties, bien entendu, depuis pas mal de temps. Et la ville a souhaité en faire un lieu culturel. Et aujourd'hui, il y a un musée, un auditorium, une salle de spectacle, de lecture, de documentation. C'est vraiment merveilleux. Et des grandes salles d'exposition. Et dans les expositions, j'en ai vu une, eh ben, qui devrait vous plaire, vous, Eric, et bien sûr, ceux qui nous écoutent, sur les chemins du paradis. On y évoque quantité de choses. On y évoque en particulier l'art des jardins islamiques ou l'Éden. Et on y admire des œuvres, alors absolument extraordinaires. On arrive, on est accueilli par Bruegel de velours, ce qui est quand même pas rien du tout. On y croise Maurice Denis ou encore Chagall. Très belle exposition. C'est donc aux franciscaines, c'est à Deauville. Vraiment, vraiment, si vous ne connaissez pas le lieu, il faut le visiter. J'ai été sidéré.
Votre deuxième coup de cœur ce matin, c'est un îlot de verdure aux abords de l'autoroute A. Hein. Tiens
ça, ça peut vous paraître bizarre. Pas on passe de Deauville à Goussainville, ouais. Peut-être. Eh bien, c'est une très belle idée. C'est la Cloran Botanical Foundation. Vous apprécierez mes progrès fulgurants en anglais. Qui, en novembre dernier, lançait, rappelez-vous, je l'avais fait ici même à ce micro, un appel à projet auprès des étudiants en paysage, botanique et horticulture. Avec pour objectif, voyez-vous, de créer un jardin urbain dans un lieu vraiment inédit, la Happy Valley, sur la commune de Roissy-en-France, à deux pas de l'aéroport.
Et ce sont donc des étudiants de quatrième année de l'agrocampus Ouest d'Angers qui ont remporté ce concours.
Et oui, ils sont cinq étudiants et ils ont imaginé le jardin des deux boucles, un espace de 7000 mètres carrés, inauguré mercredi prochain. Alors important, sachez-le, le samedi 19, pas aujourd'hui, mais dans 8 jours, les habitants de la commune seront invités à découvrir le lieu et participer à de très nombreuses activités festives, comme profiter également des animations musicales de jazz par les élèves de l'école municipale de musique de Roissy. Mais il est vrai qu'avoir eu l'idée de créer en ce lieu un gras, disons-le honnêtement, un jardin qui permettra à ceux qui vivent à Roissy, mais même aux usagers de la 1, de profiter de cet îlot de verdure, je trouve
c'est plutôt une bonne nouvelle.
Excellente.
Votre troisième coup de cœur ce matin est pour le livre intitulé Botaniste, livre signé de Charlotte Fauve et Marc Janson.
Et si je souhaitais en parler aujourd'hui, c'est que la semaine dernière, eh bien, ce livre a obtenu le prix redouté. Rappelez-vous que c'est ce prix qui récompense les plus beaux ouvrages qui traitent de botanique ou de jardin. C'est un prix qui est attribué au château du Lude à l'occasion de la fête des jardiniers. Et c'est vrai que ce livre est extraordinaire. Et souvenez-vous, Patricia, vous aviez reçu Charlotte Fauve il y a quelques temps pour évoquer ce livre où le héros principal est certainement le botaniste, mais aussi l'herbier du Muséum d'Histoire Naturelle. C'est vraiment un bel ouvrage. Alors je redonne le titre. Botaniste de Charlotte Fauve et Marc Janson, et il est publié aux éditions Grasset.
Alain Baraton, jardinier de Versailles, à présent vos conseils et vos réponses aux questions des auditrices et auditeurs de France Inter. Claire vous demande, quand et comment dois-je tailler un olivier qui a été planté il y a une dizaine d'années? Il s'agit de le maintenir en bonne santé, sachant que le terrain est tout petit et que l'olivier, lui, a pris beaucoup d'ampleur.
C'est déjà bon signe, ça prouve qu'il se plaît. On ne va pas dans de telles circonstances et à un olivier pour la récolte des olives, c'est logique. On va donc se limiter à tailler les branches qui gênent. Mais je voudrais donner un petit conseil. Je rappelle qu'un arbre ou un arbuste, ce sont des êtres vivants qui souffrent des tailles trop drastiques. Alors, n'attendez pas que la branche soit devenue géante pour la couper.
Quand vous dites qu'ils souffrent, les arbres, vous le voyez à quoi?
Comment ça se traduit? Ils souffrent parce que le simple fait de couper une branche d'un diamètre trop important favorise dans le bois justement la pénétration des virus, bactéries, champignons et autres petites bestioles. C'est un traumatisme pour la plante. Ne croyez pas que couper une branche lui fait du bien. On dit si, de temps en temps, ça la revigore. Pas du tout. Quand vous coupez une branche, vous réduisez le nombre de feuilles. La plante ne peut pas ainsi vivre normalement. Elle réduit ses possibilités respiratoires, sa captation solaire.
De photosynthèse.
Tout à fait. Bravo. Et que fait-elle? Elle souhaite de produire davantage de feuilles pour rattraper, eh bien, le déficit. Elle en souffre. Juste un chiffre que j'aime souvent donner, un tilleul taillé, espérance de vie 150 ans, le même tilleul non taillé, 850 ans. Donc on taillera l'olivier uniquement ce qui dépasse et uniquement ce qui gêne.
Et pas plus haut que le bord.
Parfait.
Caroline vous demande, d'abord elle signale que sa propriétaire veut arracher toutes les plantes le long de deux murs au prétexte que ces plantes apporteraient trop d'humidité. Le propriétaire veut donc arracher un ou un laurier et des clématites.
C'est un crime, ça met tellement longtemps à pousser, les houx.
Bravo Patricia, vous avez parfaitement raison. Je vous ferai d'ailleurs remarquer que dans les campagnes humides, on plante des arbres pour absorber l'eau de la terre. Il est donc évident que quand il y a des plantes près d'un mur, elles absorbent l'eau du sol. Donc des plantes le long d'un mur ne favorisent pas l'humidité, mais au contraire absorbent l'humidité. C'est une erreur et vous avez parfaitement raison. Un houx, pour qu'il ait... Allez, je vais vous donner un exemple. Un houx de 2 à 3 mètres de hauteur, il lui faut au minimum 20 ou 30 ans. Ça pousse très lentement. Alors, et il y aura quoi après? On va avoir un mur comme ça? Non, c'est de la folie. On ne touche pas aux arbres, aux arbustes ou aux plantes qui poussent le long des murs.
Perrine, rapidement, que puis-je planter de grimpant sur un mur qui ne voit pas le soleil et elle ne voudrait pas planter de lierre? Autre chose que
du
lierre.
Il y a quantité de plantes. Il y a les clématites qui, effectivement, poussent, non pas dans l'ombre, mais dans les situations ombrées. Il y a le jasmin d'hiver qui donne des fleurs jaunes que j'aime beaucoup. Pourquoi pas du chèvrefeuille Henri à fleurs roses? Là aussi, c'est pas mal du tout.
Ça sent bon, oui.
Voilà. Et puis, il y a même des hortensias grimpants. Il y a quantité de plantes qui poussent, non pas dans l'obscurité, mais dans des situations ombrées. Ne confondons pas.
On va pas confondre les deux. Un dernier conseil pour le week-end.
Allez,
peut-être
une petite balade. C'est la quatrième fête des... Bon, vas-y, là.
On va la refaire. Coupez, on va la refaire.
On va la combien tout. 44e fête des plantes et du jardin du domaine de Perret. C'est aujourd'hui et demain. C'est à Prissé-la-Charrière. C'est dans le département 79. Je vous laisse deviner.
Merci.
On va
chercher. On le dira. Dans les Deux-Sèvres. Les Deux-Sèvres, 79. Voilà,
bravo.
Ça va aussi vite. Et on remercie Kevin Pelot. Merci Alain Baraton. Et à demain.
À demain.